j'en ai fini avec les considérations historiques et nous abordons le texte. Alors, vous prenez vos Bibles, vous l'ouvrez au Décalogue. Alors, vous m'excuserez, mais là, pour ce commentaire, je ne suis aucune traduction, je décalque l'hébreu. C'est pas du tout parce que je dis qu'il vaudrait mieux que les traductions soient comme ça. Non, je suis tout à fait pour la traduction, par exemple, de la Bible à la Colombe. Donc c'est pas que je critique la traduction, mais quand même, je préfère coller exactement à l'hébreu, parce que vous serez peut-être plus dans le mouvement même de la pensée du texte. Mais en français, on pourrait pas traduire comme ça, ce serait abominable. C'est pas du tout une critique des traductions, c'est simplement parce que dans mon commentaire, je veux coller au plus près du texte. Alors Dieu parla toutes ces paroles, disant, « Moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. » Voilà, là je colle donc exactement au texte hébreu. Non, mais ne retenez pas ma traduction, c'est pas la peine. Simplement, dans mon commentaire, cette fois, Maillot, dans son commentaire, là, que je viens de vous montrer, vous voyez, j'allais vous parler de Maillot. C'est là où je commençais à parler de Maillot, et puis alors, tout à coup, l'un d'entre vous est venu m'apporter son commentaire, et alors, je me suis dit, mais c'est vrai, il faut l'indiquer quand même comme un des livres à lire. Alors, Maillot traduit, c'est « Moi, le Seigneur ton Dieu, moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la demeure des esclaves. » Ce verset 1 souligne, comme le son d'une trompette avant une proclamation solennelle, que ces paroles sont la parole de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est comme un avertissement, faites bien attention à celui qui parle, et faites bien attention à ce qu'il dit. Donc, si vous voulez, nous sommes là devant une parole qui n'est pas inutile de commenter. Dans l'instruction religieuse, n'abordez pas le décalogue simplement avec le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Non. Le verset 2, qui est le début du décalogue, l'introduction du décalogue, est très important. Hein? C'est très très important. Alors, là, vous avez peut-être remarqué, mais ça, je suis comme ça, on ne me changera pas, je ne peux pas accepter l'expression « l'Éternel ». Et je vais vous expliquer pourquoi. En hébreu, vous avez donc le mot que les Israélites ne prononçaient jamais. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas le prononcer non plus. Alors, je vais le prononcer, mais en demandant à Dieu pardon de prononcer un nom qu'on ne doit pas prononcer. En hébreu, c'est le mot « Yehovah ». On disait autrefois « Jéhovah ». Et aujourd'hui, on dit Yahvé. Je n'entrerai pas d'ailleurs dans les détails pourquoi on est passé de Jéhovah à Yahvé. Mais jamais un Israélite, quand il se trouvait devant ce nom, ne le prononçait. Et à la place, il substituait le mot Adonai, qui veut dire Seigneur. D'ailleurs, dans les versions anglaises, très souvent, on fait ça. Et là où se trouve le mot imprononçable, on met « the Lord », le Seigneur. Et c'est ce que je fais. Alors, je suis la Bible à la Colombe, mais chaque fois que je vois l'Éternel, c'est une sorte d'essai de traduction de Yahvé ou de Jéhovah, je préfère faire comme faisaient les Juifs. Je ne veux pas toucher à ce nom de Dieu, et je mets « le Seigneur ». Alors, c'est pour ça que, à la place de « Je suis l'Éternel ton Dieu », je mets « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Et c'est devenu une telle habitude chez moi, que tout le temps, de même dans le « Chemin Israël, écoute Israël » de Deutéronome, il y avait « Chemin Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, Seigneur est un. Mais voyez, dans le texte est écrit en réalité le mot imprononçable qu'on dit Jéhovah ou Yahvé. Hein? Tandis que les Juifs ne le disaient pas. Et en lisant, chaque fois qu'ils tombaient sur le mot imprononçable, et je dirais, les gens devraient être alertés par ça. Comment se fait-il qu'on ne puisse jamais tomber d'accord sur la manière dont prononcer ce nom? Pourquoi les uns disent Jéhovah, et pendant des siècles on a dit Jéhovah, puis que maintenant, depuis le début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, on dit qu'il faut dire Yahvé. Et même, je crois que c'est dans la Bible de Jérusalem, ou je ne sais plus dans quelle Bible récente, on met Yahvé, Yahvé, alors partout, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Or c'est épouvantable. Je préfère encore qu'on dise l'Éternel plutôt qu'Yahvé, parce que Yahvé, j'allais dire, c'est du chinois. Non, Yahvé, c'est pas du chinois. Mais on sait, mais on peut jamais savoir. C'est un mot que les Israélites ne prononçaient pas. Comment voulez-vous qu'on sache comment ils se prononçaient? Vous savez que les Israélites n'écrivaient que les consonnes et n'écrivaient pas les points voyelles ou les traits voyelles. Hein. On ne sait pas. Alors pourquoi se disputer pour savoir c'est... Mais faisons comme les Juifs. Et à la place du nom, le tétragramme sacré, on l'appelait le tétragramme sacré parce qu'il y avait quatre lettres en hébreu, mais c'était le tétragramme sacré, on ne le prononce pas. Et vous savez pourquoi? Je ne dirais pas que ça s'appuie sur la parole « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ». Mais moi, je ne peux pas. Alors je vous dis, c'est un défaut de ma part, je suis peut-être, c'est pas de la bêtise, mais je suis comme ça, je ne peux pas et je ne veux pas prononcer le nom imprononçable. Et alors je fais comme faisaient les Anglais, ben, ils ont mis partout the Lord, le Seigneur, et je dis le Seigneur. Et j'aimerais que dans nos traductions, on le mette. Mais enfin, c'est un petit aparté, continuer à dire l'Éternel, d'autant plus que l'Éternel... Je dirais, ça n'a pas... Je veux dire, ça me fait penser un peu à l'être suprême. Vous voyez, c'est une manière, l'éternel. Évidemment, le seul intérêt, c'est que vous savez que le nom imprononçable, c'était un nom dont la racine est le verbe être. Vous savez, c'est à partir de la révélation de Dieu au buisson ardent. Alors quelquefois, je suis qui je suis, hein, tu diras celui qui s'appelle je suis, etc. Voilà. Mais alors on met l'éternel. Mais l'éternel, c'est très différent. Parce que le mot éternel n'est pas bâti à partir du verbe être. Hein. Alors je vous fais part de choses. Parce que comme ça, quand vous m'entendrez, ou quand je lirai la Bible devant vous, vous serez peut-être étonné, vous direz, mais pourquoi jamais, quand il y a l'éternel, il dit l'éternel, il dit toujours le Seigneur. Ben, je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, ça ne veut pas dire du tout qu'il faille que... Je veux dire, il n'y a aucune obligation de conscience. Chacun fait comme il croit devoir faire. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, dit saint Paul. Moi, je ne peux pas prononcer le mot imprononçable. Je fais comme faisaient les Juifs. Je suis, voyez... J'ai le souci d'Israël toujours. Et je me dis quand même, qu'est-ce que les Juifs peuvent bien penser quand ils nous voient dire Jéhovah, Yahvé, ou même l'Éternel? Ils doivent se dire, c'est bizarre ces gens. Moi je préfère là coller, je me fais juif avec les Juifs. Si vous voulez, j'ai trop la vision de la nécessité de la conversion d'Israël pour ne pas faire attention à un détail comme ça. Alors j'y fais attention. Bon, enfin, c'était une petite version. Alors, le Dieu d'Israël est le Seigneur, le souverain, le suzerain de l'Alliance. Et il rappelle, dès qu'il s'est désigné, « Je suis le Seigneur ton Dieu », il dit ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli historiquement dans son peuple. Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu du ciel. C'est le Dieu des espaces infinis dont le silence effrayait Pascal. Vous savez, cette pensée de Pascal, le silence de ces espaces infinis m'effraie. Dieu est le Dieu du ciel. Mais c'est le Dieu qui se fait connaître à nous sur la terre et c'est le Dieu qui agit sur la terre où nous sommes. Oui, ce qui se passe dans le ciel, nous ne le savons pas, sauf sur les quelques points où cela nous est dit. Nous savons que du ciel, le Seigneur règne. Nous savons que dans le ciel, Jésus-Christ intercède pour nous. Nous savons que dans le ciel, il y a tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Nous savons que dans le ciel, il y a les anges. Mais je dirais, au fond, ça me reste, et c'est normal, un monde extrêmement mystérieux. Je sais que déjà, par avance, j'en suis citoyen. Je suis citoyen du ciel. Bon, parce que je suis citoyen uni à la tête de l'Église, qui est Jésus-Christ, qui est dans le ciel, maintenant, depuis l'Ascension. Bon, je sais tout ça, mais ça me reste très mystérieux. Mais ce qui est magnifique, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit dans notre espace spatio-temporel. C'est un Dieu qui agit historiquement. C'est un Dieu qui agit dans nos vies. C'est un Dieu qui agit sur la terre. Je vous ai déjà dit, la Torah est terrienne. Mais je dirais plus, la Bible est terrienne, la parole de Dieu est terrienne. Et c'est notre vie sur la terre qui doit être consacrée à Dieu. Et c'est pourquoi c'est très important ce que Dieu fait dans l'histoire. Nous devons y être attentifs. Et bien là, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Il a fait sortir son peuple d'Égypte, il a fait sortir son peuple de la maison de servitude. Et nous, bien sûr, nous pouvons là ajouter, quand nous lisons ce texte, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui me suis incarné pour ton salut, qui est mort sur la croix pour toi, qui est ressuscité des morts. » Autrement dit, je n'abolis pas une ligne de ce qui est dit là, mais évidemment, historiquement, j'y ajoute. Dans mon commentaire avec mes catéchumènes, ou dans mon commentaire avec les fidèles de mon Église, je ne vais pas me contenter de dire « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». C'est vrai, ce n'est pas aboli, je m'en souviens aussi, mais je suis obligé d'ajouter. Et ce que Dieu a fait ensuite, est pour le salut du monde, bien plus important et bien plus grand que ce qu'il avait fait alors. Dieu a déchiré les cieux et il est descendu. Il s'est incarné en son Fils Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour nous. Eh bien tout ça, c'est contenu. Hein, quand nous disons, nous rappelons « Je suis le Seigneur ton Dieu », nous n'avons pas à nous rappeler que ce que Dieu avait fait dans l'ancienne disposition de l'Alliance, mais nous avons à ajouter ce que Dieu a fait dans la Nouvelle. Hein. Et là, je dirais, nous faisons dans la ligne de Jésus. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et nous aussi, évidemment, sur le plan historique, nous sommes obligés de voir que ce que Dieu a fait pour nous est beaucoup plus que ce qui nous est rapporté qu'il avait fait pour son Église à l'époque où a été donné le décalogue. Hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, nous devons recevoir ce prologue, ce préambule, comme étant fondamental. Dieu s'y nomme et Dieu dit qu'il agit pour nous, qu'il fait des choses dans l'histoire, qu'il fait des choses dans le domaine spatio-temporel. C'est très important. Et ensuite, nous avons la première parole. Ça, c'était l'introduction du décalogue. Mais maintenant, voici la première parole. Alors là aussi, je suis très exactement l'hébreu. Il ne sera pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. Il ne sera pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. Alors évidemment, la traduction en bon français, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais le « pour toi » me semble important en hébreu. « Il ne sera pas pour toi d'autre Dieu devant ma face. » Et cette parole, c'est la parole fondamentale du décalogue. En ce sens que si je n'ai pas d'autre Dieu que Dieu, la parole de Dieu sera la chose à laquelle je serai attaché. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'une parole de Dieu, dans un univers de Dieu. Ce sont trois choses qui se tiennent. Dieu, sa parole, son univers. Dieu, sa révélation, sa création. Et c'est un, tout cela. Il y a un seul Dieu, il y a une seule loi, et il y a un seul univers. L'expression « devant ma face » est une expression qu'on peut appeler un hébraïsme. C'est une manière hébraïque de parler. Si vous voulez, si on transcrivait de l'hébraïsme au français, on pourrait presque dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu que tu adoreras. » Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que Dieu. Pourquoi ? Parce que adorer le Seigneur, en hébreu, ça se disait « se présenter devant sa face ». La face, c'est la présence de Dieu. Le dos, c'est l'absence de Dieu. Et quelquefois, Dieu nous tourne le dos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Dieu nous tourne le dos, quand Dieu, quelquefois, se tait, quand Dieu se détourne de nous, hein, c'est la même chose, quand Dieu se détourne de nous, c'est qu'il nous montre son dos, ça veut dire qu'il nous quitte. Nous voyons le dos de quelqu'un quand il part, quand il s'en va. Mais la présence de Dieu, alors je suis devant sa face. Il a son visage tourné vers nous quand nous l'honorons, quand nous l'invoquons, quand nous nous confions à lui, quand nous le servons. Il est présent. Sa face, son visage est tourné vers nous. Il ne se détourne pas de nous. Jamais Dieu ne se détourne, c'est-à-dire ne tourne le dos à quelqu'un qui le cherche, à quelqu'un qui est un mendiant de son esprit. Hein? Alors, nous avons là quelque chose donc d'essentiel. Essentiel. Et j'avais écrit, puis j'ai effacé trop vite, un adage qui est célèbre, mais vous l'aviez peut-être noté. Cujus regio, ejus religio. C'est un vieil adage qu'on a souvent répété et qui a amené d'ailleurs bien des abus. Hein, bien des abus. Si vous voulez, pour traduire, c'est très difficile à traduire littéralement, on est obligé de dire on doit avoir la religion de celui auquel appartient le pays. On doit avoir la religion de celui auquel appartient le pays. Pourquoi est-ce que je vous ai écrit cet adage ? C'était, je voudrais vous montrer, toujours à la lumière de cette première parole du Décalogue, pourquoi à la fois, d'une certaine façon, cet adage est faux, et combien, d'une autre façon, cet adage est vrai. Il est faux si l'on entendait « si je suis dans un pays bouddhiste, je dois être bouddhiste. Si je suis dans un pays musulman, je dois être musulman. Si je suis dans un pays catholique, je dois être catholique. » Etc., etc. Et vous savez que longtemps, ça a été comme ça. Même au moment de la réforme, ça a joué un rôle. Dans l'Allemagne, par exemple, ça n'a pas joué un rôle en France. Mais par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, vous savez que l'Allemagne n'était pas une nation à l'époque. C'était le Saint-Empire romain germanique et il y avait un très grand nombre d'États. Il y avait un très grand nombre d'États. Et alors, il y a certains de ces États, lorsque le prince est devenu protestant, l'État est devenu protestant. Parce que à cette époque, on considérait qu'on devait avoir la religion de celui auquel appartenait le pays. Alors, en ce sens-là, c'est faux. Mais, en un autre sens, c'est vrai. Si l'on pense que tout l'univers est la région de Dieu, appartient à Dieu, eh bien, je suis dans l'univers de Dieu, je dois avoir la religion de Dieu. Je suis dans la terre que Dieu a créée et dans la terre dont il est le souverain. Je suis dans la terre qui appartient à Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a dit « Tout pouvoir m'appartient dans le ciel et sur la terre ». Donc, je dois avoir la religion du Christ, je dois avoir la religion de Dieu. Alors, dans ce sens-là, l'adage est très bon. On doit avoir la religion de celui auquel appartient le pays. À qui appartient le pays ? Tout le pays, c'est à Dieu. Donc, je dois avoir la religion de Dieu. Alors, vous voyez qu'il y a un sens de ce vieil adage qu'on doit rejeter, ou plutôt on doit le rejeter sous un certain sens, cet adage, et on doit au contraire le recevoir dans un sens auquel bien peu de gens pensent, à savoir qu'on doit avoir la religion du Dieu auquel appartient l'univers. Et c'est pourquoi c'est très lié. Et là, c'est un des petits points dans le commentaire de Maillot, que je vous ai recommandé, c'est un point où je ne suis pas d'accord avec Maillot. Maillot est un peu antinomiste, ça je vous l'ai déjà dit. Mais aussi, Maillot tente à établir quelquefois, vous le verrez en lisant son commentaire, une certaine opposition entre le Dieu créateur, le Dieu de la nature, et le Dieu rédempteur, le Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. Or, dans la Bible, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu créateur qui est le Dieu sauveur. Et il ne faut faire, de même qu'il ne faut faire aucune opposition entre loi et évangile, il ne faut pas faire d'opposition entre le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. D'ailleurs, vous savez que le symbole apostolique et la confession de foi commune, ou en principe commune à tous les chrétiens, commence en disant « Je crois en Dieu, n'est-ce pas, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Hein » Et c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est un point important, c'est que nous devons avoir ce sens commun du Dieu créateur et sauveur. Dieu est tout ensemble le créateur et le sauveur, il ne faut pas faire de distinction. Alors, la première parole, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », est au fondement des 9 autres paroles. Si je crois en ce seul vrai Dieu, la loi de ce seul vrai Dieu va devenir la loi de ma vie. Et là, il faut faire attention à ne pas tomber dans un polythéisme caché. Vous savez que le polythéisme, c'est la religion de plusieurs dieux. Or, vous savez qu'il y a des gens dans l'univers, il y avait des gens autrefois qui étaient les Romains et les Grecs, mais il y a des gens encore aujourd'hui dans certains pays qui sont polythéistes, qui croient en plusieurs dieux. Mais on peut être polythéiste d'une manière un peu cachée. Alors, vous avez un homme qui a eu une influence pernicieuse sur le christianisme, c'est Joachim de Flore. Il a vécu de 1132 à 1202. Joachim de Flore. Vous en avez peut-être entendu parler. Qu'est-ce qu'enseignait Joachim de Flore ? Eh bien, il enseignait qu'il y avait 3 étapes dans l'histoire de la religion chrétienne. Il y avait d'abord l'âge du Père. C'était l'âge de la justice et de la loi. Et à ce moment-là, on était en enfance. Eh oui, l'âge du Père. On était en enfance. Ensuite, il y a eu l'âge du Fils. C'est l'âge de la grâce. C'est l'âge de l'adolescence. Et puis on attend et va venir et va arriver l'âge de l'esprit. Alors là, les hommes seront à l'état adulte. Et ils seront devenus autonomes, c'est-à-dire ils seront devenus loi à eux-mêmes. Eh bien, voyez-vous, je dirais que cette hérésie de Joachim de Flore a pénétré l'Église. Et si vous examinez bien des courants dans l'histoire de l'Église, depuis le XIIe siècle, vous verrez que cette idée de Joachim de Flore, elle est là, sous-jacente. Combien de gens, combien de théologiens même, combien de docteurs de l'Église ont enseigné, on n'est plus au temps de la justice et de la loi. La justice c'est fini, la loi c'est fini. Maintenant on est dans le temps de la grâce, il n'y a que la grâce qui compte. Mais maintenant vous avez d'autres gens qui sont venus plus tard, qui disent, mais non, mais on n'est plus dans l'âge du Fils, on n'est plus dans l'âge de la grâce. Maintenant, l'homme est devenu adulte. Ça se dit beaucoup aujourd'hui. Maintenant, l'homme est devenu adulte. C'est curieux. Vous savez, plus l'homme affirme qu'il est adulte et plus il fait de bêtises. Si bien qu'on pourrait se demander plutôt s'il ne retombe pas en enfance. Et il y a comme un développement. L'homme adulte. Alors l'homme adulte, qu'est-ce qu'il aurait besoin de loi? Et même qu'est-ce qu'il aurait besoin de grâce? Il se suffit à lui-même, l'homme. Il est autonome. Alors vous voyez, c'est curieux combien cela a infesté. Alors là, on a un polythéisme déclaré, mais c'est un certain polythéisme caché. C'est comme si Dieu avait commencé par être le Père, ensuite, bon, c'est fini le Père, c'est le Fils, et puis ensuite, c'est fini le Fils, c'est le Saint-Esprit. Tandis que nous croyons au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, mais il est toujours Père, toujours Fils, toujours Saint-Esprit. Dieu ne change pas. Dieu est toujours fidèle à lui-même. Il est toujours Dieu, dans la plénitude de son être de Dieu, avec les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Et il n'y a pas succession des personnes. Les trois personnes sont éternelles. Le même Dieu est éternel. Le même Dieu est Dieu. Donc, voyez, nous avons un petit Joachim de Flore qui cherche toujours à se cacher dans un coin de notre cœur. Ben, il faut l'envoyer promener, le petit Joachim de Flore. Il ne faut pas tomber dans l'hérésie de Joachim de Flore. Et on n'est pas passé de l'âge du Père à l'âge du Fils, et on ne passera pas de l'âge du Fils à celui du Saint-Esprit. On est toujours dans le temps du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a le même univers et la même durée de l'histoire, et tout cela est régi souverainement par celui qui accomplit son dessein. Donc c'est important, là, de faire très attention. En disant aussi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ça veut dire, pour notre époque, par exemple, qu'on va refuser la toute-puissance d'une réalité si nécessaire qu'elle soit. Même l'Église. L'Église a été ou a risqué d'être, à certaines époques, un contre-Dieu. Et vous savez qu'on avait même fini par faire passer les lois de l'Église comme étant les lois de Dieu. Quand l'Église avait parlé, c'est comme si Dieu avait parlé. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je veux dire, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, dans aucun pays du monde, on puisse dire que l'Église soit la maîtresse absolue d'un pays. On m'a dit, vous le savez mieux que moi, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a dit qu'au Canada, jusqu'il y a une cinquantaine d'années, l'Église catholique romaine régissait et régentait tout. Eh bien, c'était comme... Au Québec. C'était comme une divinisation de l'Église. Eh bien, on ne peut pas accepter un tel pouvoir à l'Église. Je crois que l'Église est nécessaire, Dieu a voulu, mais il n'a pas voulu d'une Église arrogante, d'une Église qui régirait tout, qui commanderait tout, qui ordonnerait tout, et qui serait finalement un Dieu à côté de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est refuser aussi que l'Église soit un Dieu. Mais c'est aussi refuser que l'État soit un Dieu. Et il y a une tentation très grande qui nous achemine, si nous n'y prenons pas garde, vers l'État totalitaire. Dans certains pays, on a eu finalement l'État totalitaire. C'est-à-dire c'est l'État qui régentait tout, qui s'occupait de tout, qui organisait tout. Et l'État était devenu à Dieu. Et là, si vous voulez, on peut penser au culte de Moloch. Vous avez donc le mot Moloch qui est employé dans l'Écriture sainte. Vous aviez des Cananéens qui sacrifiaient au dieu Moloch. Or, le mot Moloch est composé, hein, vous savez que dans les langues du Proche-Orient, ce sont des langues dont les consonnes sont les racines. Et alors, vous avez exactement Moloch. Moloch, on ajoute les voyelles, et un roi en hébreu se dit Malak. Malak, ça désigne un roi. Et au fond, Moloch, Malak, ou toute autre forme, parce qu'il y avait d'autres formes comme Molik ou Malik, etc. Peu importe, c'était les consonnes qui comptaient. Ça signifie le roi. Eh bien, une idole, c'est un faux dieu qui se prétend roi, ou une fausse déesse qui se prétend reine. L'Église, à un moment donné, était comme une déesse. L'État veut être traité comme Dieu. C'est lui qui édicte ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Il n'a pas une référence au-dessus de lui, c'est lui qui décide de la loi. Or, l'État n'a pas le pouvoir de désigner la loi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que les Hébreux, quelquefois, aimaient faire des astuces, et même la Bible fait l'astuce, là, parce que avec Moloch, on a les consonnes du mot roi et les voyelles du mot honte. Et au fond, c'était une manière de dire honte aux faux dieux qui se prétendent rois. Nous n'avons pas d'autre dieu, nous ne devons pas avoir d'autre dieu que Dieu. Nous ne devons pas avoir d'autre dieu que Dieu. C'est le sens de cette première parole, et il est très très important de bien l'entendre. Parce qu'au fond, je le répète, tout le reste va découler de cette affirmation-là. Tout le reste. Par là aussi sont interdites toutes les pratiques, d'occultisme. Vous savez qu'il y a des règles très précises dans la Torah. Et en particulier, dans le livre du Lévitique, il y a condamnation qui est portée sur tous les horoscopes, sur tous les devins, sur tous ceux qui lisent dans les lignes de la main, sur tout ce qu'il a. Et alors, ce qui m'a frappé, mais ça ne m'a pas surpris, c'est que vous pouvez regarder un quotidien au Canada ou en France. Peut-être est-ce la même chose aux États-Unis, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, au Canada et en France, j'ai eu des exemplaires de journaux de Montréal. C'est incroyable. Il y a toujours l'horoscope. Dans les quotidiens français aussi, il y a toujours l'horoscope. Ça n'a l'air de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je suppose, malheureusement, qu'un certain nombre de gens qui se disent chrétiens consultent ces horoscopes. C'est aussi une atteinte portée à « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Parce qu'au fond, les gens qui lisent leur horoscope, ou bien les gens qui vont calculer, c'est « moi je suis du lion, toi tu es du sagittaire, nous faisons notre rencontre au moment où l'on passe de tel signe à tel autre, etc. » Et alors on va vivre, on va agir en idolâtrant de ces recherches occultes. Et je crois que ça, c'est très grave. Nous devons faire très, très attention. Parce que malheureusement, on trouve ça dans tous les journaux en France, on le trouve aussi dans toutes les hebdomadaires, et beaucoup de gens vont consulter leur horoscope. On ne lit pas la Bible, parce qu'on sourit, c'est bête de lire la Bible. On ne peut pas vivre au XXe siècle et lire la Bible. Mais par contre, on vit au XXe siècle et on consulte l'horoscope. Et alors, c'est très étrange. Eh bien, tout ça se trouve aussi placé sous la condamnation de ce commandement. Donc, un faux dieu, une idole, voilà ce qui est condamné dans la première parole du Décalogue. Et j'en viens maintenant à la seconde, que je lis toujours en calquant sur l'hébreu. Tu ne feras pour toi ni image travaillée, ni représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. En hébreu, il y a littéralement de mes haineux, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment, à mes amants, et qui, à ceux qui m'aiment, à mes amants, et qui gardent mes commandements. Le mot image en hébreu, c'est le mot pesel. Et généralement, il s'agissait d'une image taillée ou fondue par l'homme, dans le bois, dans la pierre ou dans le métal. Tu ne feras pour toi ni image travaillée, ni représentation quelque chose de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Souvent, je ne sais pas c'est pourquoi, vous avez des modernistes qui se moquent de ce que dit l'Écriture au sujet du ciel, de la terre et des eaux plus bas que la terre, comme si c'était là une sorte de vision cosmogonique du monde ou cosmique du monde. C'est risible. Or, pas du tout. C'est très simple. Il suffit de faire un tout petit dessin pour voir ça. N'est-ce pas ? Il y a... imaginez l'eau. Et bien, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le ciel. Hein ? Il y a la terre. Et il y a les eaux plus bas que la terre. Et jusqu'à preuve du contraire, les eaux sont toujours à un niveau inférieur à la terre. Alors, c'est une représentation, ça veut dire, quelle que soit l'image que tu la prennes dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre, tu n'as pas le droit de te faire d'image. Et c'est lié, bien sûr, au culte. Mais c'est pas seulement lié au culte, c'est lié à la représentation que nous devons avoir de Dieu. Alors, comme c'est là peut-être une façon peu courante, même dans nos églises, de voir les choses, je voudrais un petit peu détailler le sens de ce commandement. Ce que la seconde parole du Décalogue nous interdit, c'est de se faire, de se fabriquer, à partir du créé céleste, terrestre ou souterrain, une image travaillée ou une quelconque représentation, soit d'une créature pour lui rendre un culte, soit même du vrai Dieu pour lui rendre un culte. Je ne dois me faire aucune image de Dieu. Je ne dois me fabriquer aucune image de Dieu. Au fond, c'est une précision ajoutée à la première parole. Première parole, tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu. Deuxième parole, tu ne te feras aucune représentation de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'un ajout, parce que, nous allons le voir, cela va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine en général. Essayons là de sonder cette parole. Souvent, les protestants, avec un certain plaisir, y voient une attaque contre les catholiques romains et les orthodoxes d'Orient. Vous savez qu'il y a des statues et des images dans les églises catholiques romaines, et il y a des icônes, en particulier sur l'iconostase, mais pas seulement sur l'iconostase. Vous avez visité une église orthodoxe. Dans une église orthodoxe, vous avez, qui est un peu sur le plan du culte juif, dans une église orthodoxe, vous avez généralement l'iconostase qui vient couper le temple, comme s'il y avait le saint des saints et le saint. Alors là, vous avez l'autel, mais là, vous avez les icônes sur l'iconostase. Ça n'existe pas dans nos églises occidentales. Mais si vous allez dans une église russe, il doit y avoir une église orthodoxe à Montréal, sûrement. Si vous allez dans l'église orthodoxe de Montréal, vous verrez qu'il y a donc l'iconostase qui vient couper le saint du saint des saints. Et vous avez toutes sortes d'icônes du Christ, de la Vierge Marie, des saints, etc., qui se trouvent sur l'iconostase. Bon. Et je crois, bien sûr, que c'est vrai. Nous ne devons pas nous faire de statues, ni nous ne devons pas avoir d'icône pour nous prosterner devant elle et pour les servir. Mais on a l'air de penser que ça, c'est un commandement qui vise bien les catholiques romains et les orthodoxes, mais sous-entendu, nous protestants, nous sommes en dehors du coup, parce que dans nos temples, dans nos églises, il n'y a point d'icône et il n'y a point de statue, on ne se prosterne devant aucune image, donc on se pense en règle. Mais nous ne sommes pas du tout en règle. Nous ne devons pas non plus nous représenter Dieu dans notre pensée. Nous ne devons pas nous faire une image de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous fabriquer des images de Dieu à l'intérieur de notre pensée. Autrement dit, on peut se prosterner sans avoir de statue et sans avoir d'icône devant de fausses représentations de Dieu. C'est-à-dire on peut se fabriquer une image de Dieu, une représentation de Dieu dans sa pensée. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas ne pas avoir une certaine idée de Dieu, une certaine image de Dieu. D'ailleurs, en grec, le mot « idée » et le mot « image » ont la même racine. On n'a pas le droit de se construire une image de Dieu. Mais comme dans notre pensée, nous sommes obligés d'avoir une image de Dieu. On ne peut pas ne pas avoir d'image de Dieu. Nous avons tous une certaine idée de Dieu. Et on ne peut pas vivre sans idée de Dieu. Mais il y a une grande différence entre se faire une image de Dieu et recevoir l'idée et l'image de Dieu que Dieu nous révèle dans sa parole. Vous voyez, ça fait une immense différence. Je peux avoir une idée de Dieu à ma manière, vous savez, comme Voltaire qui se faisait une idée de Dieu, il disait « Dieu pardonnera, c'est son métier ». Bon, et si vous voulez, on peut se fabriquer une idée, n'est-ce pas? Au fond, bien souvent, les pasteurs, les théologiens, doivent faire très attention à l'idée qu'ils se font de Dieu. Et donc, ensuite, au discours qu'ils se font de Dieu, à la manière dont ils parlent de Dieu. Parce que Dieu ne nous interdit pas d'avoir une idée de lui, d'avoir une image de lui dans notre pensée. Il ne peut pas nous l'interdire, parce que si nous n'avions aucune idée ni aucune image de Dieu, nous ne pourrions pas croire en Dieu. Donc, nous avons forcément une idée de Dieu. Nous avons forcément dans notre esprit une image de Dieu. Mais c'est très différent. Une image de Dieu que l'on se fait, que l'on se fabrique, que l'on se forge, que l'on s'invente, et une image de Dieu qu'on reçoit. Et en particulier, bien sûr, nous voyons resplendir l'image de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image de Dieu. On pourrait dire d'une certaine manière que Jésus-Christ est l'icône de Dieu. Nous devons recevoir l'image de Dieu que nous donne Jésus-Christ. Nous devons recevoir l'image de Dieu que nous donne la Sainte Écriture. Nous devons avoir l'idée de Dieu que nous donne la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Nous devons avoir de Dieu l'idée que Dieu lui-même nous donne de lui dans sa parole, dans la Sainte Écriture. Ça, c'est pas se faire une image. C'est recevoir une image. Alors voyez-vous, il faut faire très attention. La seconde parole, le second commandement, ne vise pas seulement les images extérieures que l'on peut se fabriquer, mais les images intérieur aussi. Oui, c'est un petit peu comme à propos de l'adultère. L'adultère, c'est pas seulement coucher avec une femme, c'est déjà convoiter une femme, nous dit Jésus. Ça se passe là, convoiter une femme. Voilà. Ça se passe dans notre tête, dans notre cœur. Hein. On jette une femme sur un regard. Mais pourquoi on jette une femme sur un regard? C'est parce que c'est notre cœur. C'est pas nos sens qui pêchent. C'est notre âme qui pêche. C'est notre personne qui pêche. Alors, il faut faire très attention. Nous le verrons en suivant l'enseignement du Christ et de la parole de Dieu. L'adultère, c'est pas l'acte extérieur. De même, l'image, c'est pas seulement l'image extérieure. On peut se fabriquer de Dieu une image intérieure se prosterner devant elle et la servir. Et on sert un faux Dieu, parce que c'est le Dieu qu'on s'est fabriqué, qu'on s'est imaginé. Or, nous ne devons pas imaginer Dieu. Nous devons recevoir la révélation de Dieu, Jésus-Christ, l'Écriture sainte, comme ce qui va nous donner une vraie idée de Dieu. Alors ça peut toucher le protestantisme, et d'ailleurs ça a bien touché le protestantisme. Combien de protestants se fabriquent de Dieu une image Dieu, par exemple, on tient des raisonnements, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, donc il ne faut pas que j'ai l'idée que Dieu est juste, il ne faut pas que j'ai une idée qu'il peut y avoir la colère de Dieu ou la justice de Dieu. Non, moi je ne veux pas d'un Dieu qui a de sainte colère, je ne veux pas un Dieu qui soit un Dieu de justice, moi je veux qu'un Dieu d'amour. D'ailleurs ça arrange bien les affaires. Hein. Prends, en le sachant ou pas, la parole de Voltaire, Dieu pardonnera, c'est son métier, il est amour, c'est son métier de pardonner, pas besoin de se repentir, pas besoin de changer de vie, pas besoin... Non. Voilà. Alors, vous voyez, on peut avoir, en étant protestant, une idée de Dieu qui est une idole, finalement. C'est pas une idole extérieure, mais c'est une idole intérieure. Et alors, j'attire votre attention aussi sur le fait de la fameuse représentation du veau d'or. Vous savez, lorsque Moïse était sur la montagne, c'est d'ailleurs assez amusant de voir combien Aaron a le toupet de s'en tirer. Je ne sais pas si vous avez lu attentivement le texte, mais enfin vous le connaissez. Aaron dit, ben non, on a mis tous nos bijoux d'or là dans ça, tout ça. Puis il est sorti ce veau. Il est sorti ce veau, personne n'y peut rien, on a mis tout ça, puis le veau est sorti. Enfin, vous voyez, c'est presque enfantin la manière dont l'homme souvent essaye de se défendre par rapport au péché qu'il a commis. Et alors, nous avons là quelque chose de net. Il voulait représenter Dieu, le Dieu qu'il avait fait sortir du pays d'Égypte. Il ne voulait pas du tout faire un faux Dieu. Et alors, vous savez qu'en Égypte, entre autres choses, on adorait le bœuf. Il y avait le fameux bœuf Apis et tout ça, ils avaient dit, la meilleure manière de se représenter Dieu, c'est de fabriquer un veau. On va fabriquer un petit bœuf, on va fabriquer un veau, et puis on dira, voilà, ça c'est le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Ils ne voulaient pas faire un autre Dieu que Dieu. C'était Dieu qu'ils voulaient représenter. Ils le représentaient sous la forme d'un veau d'or, parce qu'ils avaient vu que les Égyptiens fabriquaient comme ça des idoles, et eux, mais c'était le vrai Dieu qu'ils voulaient représenter. De même, souvent, nous voulons nous représenter le vrai Dieu en imaginant le Dieu qui est selon nos aspirations ou selon nos goûts. Eh bien, ce commandement lui dit non. Tu ne dois pas te faire de Dieu une image extérieure pour te prosterner devant elle et la servir, et tu ne dois pas non plus te faire une image intérieure, une idée de Dieu, une fausse idée de Dieu, pour te prosterner devant elle et la servir. Tu ne dois recevoir d'autres images de Dieu que celles que je te donne de moi. Et l'image que Dieu nous donne de lui, c'est l'image qui nous donne dans, en Jésus-Christ et dans la Sainte et dans la Sainte Écriture. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement important et auquel nous devons être extrêmement attentifs. Ne croyons pas que les idolâtres, ce sont seulement les catholiques romains ou les chrétiens d'Orient, ce sont aussi les protestants. Et il faut faire très attention. La vraie religion, c'est-à-dire notre vrai rapport à Dieu. Ah oui, là, un petit détail au sens du mot religion. Vous avez, on a fait plusieurs hypothèses sur l'origine du mot religion. Je pense que c'est un mot qu'on peut très bien adopter dans un bon sens. Aussi, bien sûr, ça peut être un mauvais sens. Et alors, on a dit, en latin, vous avez un verbe qui est religare et un autre verbe qui est religere. Et au fond, dans un cas, vous avez le sens de relire, méditer. Non, relire. relire, méditer. Et là, vous avez le sens de relire. Alors, vous avez, si vous voulez, pour Cicéron, il prenait le mot religion à partir du verbe signifiant relire. Tandis que plus tard, Lactance, qui était un écrivain chrétien du début du christianisme, il voyait l'origine du mot religion dans le verbe relire. Et au fond, on peut dire, la religion, c'est ce qui me relie, je reprends le schéma que je vous avais dit l'autre jour, ce qui relie notre cœur, soit au vrai Dieu, soit à une idole. Alors, quand, vous voyez, ce qui me relie, soit à vrai Dieu, ce qui m'unit, hein, donc, une vraie religion, c'est ce qui relie au vrai Dieu. Et une fausse religion, c'est ce qui relie notre cœur à une idole. Et alors, quand on se convertit, on passe d'une fausse religion qui nous reliait à une idole, qui pouvait être notre propre moi d'ailleurs, nous passons à la communion avec Dieu, nous sommes reliés au vrai Dieu. Donc c'est au sens, me semble-t-il, de religarer, c'est-à-dire de relier, qu'il faut prendre la bonne étymologie du mot religion. Eh bien, la vraie religion, c'est celle qui décrit le vrai rapport au vrai Dieu. Et le vrai rapport au vrai Dieu n'est pas affaire de notre choix, de nos idées, de nos imaginations, mais c'est ce qui établit le vrai rapport à Dieu. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui établit le vrai rapport entre nous et lui. Alors, je pense que vous avez, si vous voulez, deux schémas possibles. Il n'y en a pas trois, il y a deux schémas possibles pour la vraie religion. Le bon schéma, c'est Dieu qui nous révèle son image dans sa parole, en Jésus-Christ et dans la Sainte Écriture, et nous qui sommes soumis à Dieu et à l'image, c'est-à-dire à la révélation qu'il nous donne de lui-même. Ou bien alors, c'est nous qui allons nous faire une image de Dieu ou d'un faux Dieu, et donc Dieu sera selon ce que nous voulons. Alors là, vous avez la vraie religion, et là, vous avez une fausse religion. Et donc, même à l'intérieur du christianisme, on peut avoir une fausse religion à partir du moment où on va se faire une image de Dieu. Et alors finalement, on est maître de la situation. Dans un cas, c'est Dieu qui est maître de la situation, Dieu qui nous révèle son image, et nous qui nous soumettons à cette image, tandis que dans l'autre cas, c'est nous qui inventons, qui fabriquons une image de Dieu, et alors c'est Dieu qui est, si j'ose dire, sous notre dépendance. Et maintenant, pour finir, ce sera mon dernier paragraphe pour aujourd'hui, nous allons un peu parler de la jalousie de Dieu. Je lis le texte. Il ne faut donc pas nous prosterner devant une image de Dieu que nous nous serions fabriquée. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La jalousie de Dieu. Vous savez, il y a des révélations dans l'Écriture qui peuvent nous heurter. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de la colère de Dieu, de la orgé tou Theou, la colère de Dieu. Et aujourd'hui, voici que je suis amené à vous parler de la jalousie de Dieu. Oh, que c'est vilain d'être en colère. Oh, que c'est vilain d'être jaloux. D'abord, il faut faire attention. Nos colères à nous sont des colères généralement injustes. Et Jésus-Christ savait tellement qu'il nous arriverait, même chrétiens, de nous mettre parfois en colère, que Jésus, au lieu de nous dire, parce qu'il sait que vraiment nous en serions impossibles, vous, si vous êtes mes frères, jamais vous ne vous mettrez en colère. Il n'a pas dit ça, Jésus l'a dit. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous tous qui êtes là, de me mettre en colère. Moi, ça m'est arrivé de me mettre en colère. Et on a le droit, quelquefois, de se mettre en colère si c'est une juste colère. Vous savez, il y a des moments où l'on ne peut pas faire autrement que d'empoigner un frère ou une sœur, un paroissien, et puis on est en colère. On lui dit, voilà 20 fois que je... Alors bien sûr, il ne s'agit pas de lui flanquer des baffes. J'ai un de mes chers collègues, qui était un peu embêtant parce qu'il faisait comme ça. Un jour, il a, dans sa juste colère, mais il a dépassé la juste colère, cogné la tête d'un paroissien contre un mur, mais c'est que l'autre a été assommé, hein, sur le coup.
Il a compris.
Alors, oui, mais je crois qu'il a compris, effectivement. Mais je veux dire, il y a des justes colères. Lorsque Jésus s'est emparé de fouet et a chassé les marchands du temple, quelquefois, on essaye, comme chrétien, on dit, oui, il a bien pris des fouets, mais en réalité, il s'en est pas vraiment servi, c'était purement symbolique. Non, Jésus a pris le fouet et il a chassé les vendeurs du temple. C'était une juste colère du Fils de Dieu. Et nous avons vu dans Romains 1, au verset 18, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout. Mais, vous savez, la colère de Dieu est toujours juste. Tandis que nos colères sont généralement injustes. Et c'est pourquoi le mot colère finit par avoir une connotation négative. Mais parce que nos colères à nous ne tiennent pas debout. Et il y a toutes sortes de proverbes au sujet de la colère que nous ferions bien de relire. Et il y a toutes sortes aussi d'affirmations au sujet de la colère dans le Nouveau Testament dont nous devons tenir compte. Il suffit de regarder un peu les textes au mot colère dans une concordance. Mais la jalousie. Alors là, il s'agit d'autre chose. Il ne peut pas y avoir d'amour véritable sans jalousie. Bien sûr, il y a des formes de jalousie qui sont mauvaises. Il y en a même, comme vous venez de le dire, qui sont maladives. Il y a des gens qui sont des maniaques de la jalousie. Mais on ne peut pas aimer sans être jaloux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'exclusif dans l'amour. Celui qui aimerait sa femme et tolérerait que sa femme ait des amants ne montrerait qu'une chose, c'est qu'il n'aime pas vraiment. Il y a quelque chose d'exclusif dans l'amour. Et de même, Dieu nous aime de façon exclusive et il veut que nous l'aimions de façon exclusive en retour. Et Dieu est jaloux. Et Dieu a été jaloux lorsqu'il voyait Israël, qui était son épouse, courir après des amants. Et combien de fois les prophètes ont attaqué les adultères d'Israël, parce qu'Israël courait après des amants, après des idoles, au lieu de rester fidèle à son époux, au lieu de rester fidèle à Dieu. Et dans l'Apocalypse aussi, il est rappelé que l'Église doit être fidèle à son premier amour. Et l'Église ne doit pas lorgner vers d'autres amants que Dieu dans son culte et dans sa manière d'être. Et ceci m'amène à vous rappeler, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû déjà le dire, c'est que les commandements s'adressent d'abord à Israël. Il n'est pas dit « écoutez Israélite », il est dit « écoute Israël ». Bien sûr, les commandements aussi ont une portée personnelle. D'ailleurs, on ne peut pas distinguer, séparer Israël comme peuple de Dieu et les Israélites. De même qu'on ne peut pas distinguer entre l'Église et les chrétiens fidèles. Ça ne fait qu'un. Mais il ne faut pas oublier que les commandements s'adressent à... Nous le verrons à propos précisément du commandement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Tu ne commettras pas d'adultère, d'abord. Ça veut dire plus que ce que les pharisiens enseignaient à ce sujet, mais ça veut dire aussi que Israël ne doit pas commettre d'adultère. Et là, nous rejoignons le premier commandement et le commandement sur l'adultère. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu. Ça veut dire aussi que tu ne commettras pas d'adultère en allant vers des idoles, en allant vers des faux dieux. Donc il y a le double sens. Chez les prophètes, d'ailleurs, quelquefois, on ne sait pas très bien, il y a des passages où on ne sait pas très bien s'il s'agit de l'adultère spirituel d'Israël ou des adultères, au sens plus ordinaire, des Israélites. Les choses sont liées. Donc la jalousie de Dieu va de pair avec son amour. Jésus ne peut pas tolérer qu'Israël, que son Église, ait d'autres dieux que Dieu. Dieu est un amant jaloux de son Église. Dieu est un époux jaloux de son épouse. Et d'ailleurs, si l'Église est fidèle, elle ne peut pas non plus avoir d'amant autre que Dieu. Dieu est l'amant, l'époux de l'Église. Il y a un lien étroit entre les deux. Et alors, nous devons donc faire très attention. La jalousie de Dieu, c'est une jalousie qui est sainte. Comme la colère de Dieu, c'est une colère qui est sainte. Le malheur, c'est que nos jalousies à nous et nos colères à nous sont le plus souvent des jalousies et des colères pécheresses, injustes, que nous ne devrions pas avoir. Mais il y a un vrai sens de la jalousie, un bon sens de la jalousie. Et dans ce bon sens-là, Dieu est jaloux. Il y a un bon sens aussi de la colère, et Dieu est en colère aussi dans ce bon sens-là. Nous devons donc être toujours prêts à corriger, à préciser, à compléter l'image que nous avons de Dieu, l'idée que nous avons de Dieu. Et d'ailleurs, plus nous méditons la Sainte Écriture et plus nous contemplons Jésus-Christ, plus nous regardons à Jésus et plus nous lisons la Bible, plus l'image de Dieu, qui est d'abord un peu floue dans notre cœur. Je crois qu'un chrétien, au démarrage, si j'ose dire, il reçoit de Dieu une certaine image de Dieu, mais c'est une image qui va aller en se précisant. De plus en plus, nous allons mieux savoir qui est Dieu, parce que de plus en plus, nous allons discerner la beauté de Jésus-Christ et la beauté de Dieu telle qu'il se révèle dans l'Écriture. Petit à petit, les choses vont, se préciser, se compléter, si bien que l'image de Dieu va devenir de plus en plus belle si elle est de plus en plus selon Jésus-Christ et selon l'Écriture. Et ça, donc, ce doit être tout notre travail. Maillot, dans son petit commentaire, fait une remarque qui est très juste au sujet de Rembrandt. Je pense que vous avez déjà vu des dessins, des estampes de Rembrandt, ce grand peintre du XVIIe siècle. N'est-ce pas ? Au fond, Rembrandt était un homme nourri par la Bible. Et quand vous regardez au dessin qu'il a fait pour illustrer en quelque sorte la Bible, il en a fait de nombreux, ce qui est saisissant, c'est ce que dit Maillot. Voilà ce que dit Maillot. Avec Rembrandt, on ne peut jamais faire l'économie du texte biblique. Avec Rembrandt, on ne peut jamais faire l'économie du texte biblique. Quand Rembrandt dessine une scène racontée par l'Écriture, il est vraiment fidèle à l'Écriture. On a le droit de se faire des images en ce sens-là, parce que ce ne sont pas des images pour se prosterner devant elles et pour les servir. Et jamais l'art n'a été interdit par la Sainte Écriture. Au reste, c'est dans la même Torah qui interdit la fabrication d'images que nous apprenons que Dieu a ordonné des images précises dans le temple, et en particulier l'Arche de l'Alliance avec les chérubins et tout ça. Donc faisons bien attention, on ne doit pas se faire d'images pour se prosterner devant elle et les servir. Mais par exemple, si un artiste chrétien dessine soit une scène peinte, soit une scène de la création, soit une scène de la Sainte Écriture, et qu'il est vraiment fidèle à la révélation de Dieu, soit dans le regard qu'il jette sur la création, soit sur le regard qu'il jette sur l'Écriture, je dirais, un artiste chrétien vraiment peut faire des images. Vous avez des religions où on interdit le dessin de toute forme d'image, ou même on interdit encore aujourd'hui l'usage de la photographie, tandis que le chrétien est parfaitement libre là. Ce qui ne doit pas, c'est se faire d'image pour se prosterner devant elle et pour les servir. Et nous avons toute chance d'éviter de tomber dans ce péché si nous sommes vraiment attentifs à ce que nous dit la Bible. Il y a un slogan qui, en 68, vous savez qu'en 68, il y a eu dans le monde entier, et en particulier en France, une véritable sorte de révolution. Et on écrivait des slogans sur les murs. Oui. Par exemple, il est interdit d'interdire. Je ne sais pas si on avait vu ça ou ça. Et alors, un des grands adages qu'on écrivait sur les murs en 1968, j'ai vu ça en particulier sur la Sorbonne, l'imagination au pouvoir. Et en un sens, je crois que Dieu nous a donné une imagination pour ça. Mais il y a une chose que nous ne devons pas imaginer, nous, c'est qui est Dieu. Ça, c'est l'imagination que nous interdit la seconde parole du Décalogue. Parce que là, nous ne devons pas imaginer Dieu, mais nous devons laisser Dieu imprimer son image en nous, dans notre cœur et dans notre pensée, afin de lui rendre grâce tous les jours de notre vie. Alors, nous recevons encore quoi ? Hein ? 6 minutes. Alors, voilà. Si jamais je peux répondre à une question maintenant, on peut peut-être pas répondre à beaucoup de questions, mais peut-être à une, ou peut-être à deux, si vous êtes très rapide. Enfin, plutôt si votre question peut... Alors là, il y en a 3 qui lèvent la main.
Le premier, c'est moi.
Le premier, c'est bien. Faites attention, il ne faut pas dire trop vite, le premier c'est moi. Mais ça fait rien, le premier c'est vous, allez-y.
Vous êtes en haut de la vie. Alors, je pense que c'est exactement ce que j'avais compris. Vous dites que la corruption de l'homme n'était pas complète. Alors, c'est cette partie qui restait là que Christ a régénéré. Est-ce que je suis juste jusqu'à là? Non, c'est pas ce que vous avez dit.
Si, j'ai dit que Dieu, que l'homme était corrompu dans tous les aspects de son existence, dans toutes les parties de son être, et qu'il avait besoin d'être sauvé dans toutes les parties de son être, dans tous les aspects de son existence. Ça, j'ai bien dit ça.
Est-ce que vous n'avez pas mentionné qu'il restait quelque chose qui n'était pas complètement corrompu?
Non. Il n'y a rien qui ne soit atteint par la corruption. La corruption de l'homme l'atteint tout, dans sa raison, dans ses sentiments, dans sa pensée, dans sa volonté, c'est ça ce que j'ai dit.
Complètement.
Complètement. La seule chose que j'ai dit, c'est que Dieu, dans sa providence et sa grâce générale, empêche cette corruption de s'épanouir dans toute son intensité. Voilà ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Dieu bornait et limitait les effets intensifs du péché. Bon, alors seconde question, à vous.
Oui, on ne sait pas la représentation de Dieu concrète. Mais je crois qu'il y a quelque part, je crois, dans un roi, quand Élie avait vu le dos de l'Éternel.
Que
Élie avait vu le dos de l'Éternel.
Oui.
Moïse avait vu sa main par-dessus, il avait laissé passer, il avait exercé le trou.
Oui. Et alors?
Mais ça, c'est une représentation de Dieu, par exemple.
Non.
Parce qu'il a vu le dos de l'Éternel.
Est-ce que vous voulez me donner la référence?
Exode 33, verset 23.
Exode 33, verset 23. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, puis je retirerai ma main. Et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors, quelle est la difficulté que vous voyez là? Non, vous ne voyez pas de difficulté.
Non, est-ce que ce n'est pas une représentation de Dieu, par exemple?
Oui, ah ben là, c'est une certaine représentation de Dieu. En ce sens, si vous voulez, que la face de Dieu signifie la présence de Dieu, et que lorsque Dieu cache sa face, ou tourne le dos, ou se détourne, cela représente un éloignement de Dieu, cela représente même à la limite une absence de Dieu. Alors donc nous avons, c'est une façon imagée de nous dire que tantôt Dieu est présent pour nous, hein, pour nous, parce qu'il est toujours présent partout, mais tantôt Dieu est présent pour nous, tantôt Dieu est absent. De même que Dieu parle et qu'il arrive qu'il se taise, et qu'il y a toujours, dans le fait que Dieu se tait, il y a un certain jugement. Quand Dieu ne parle plus, c'est, ça signifie généralement un certain jugement, parce que c'est un jugement de Dieu, par exemple, qui vient des temps, quand vient d'un temps où il n'y a plus de parole de Dieu, où Dieu ne parle plus, c'est terminé, il ne parle plus. C'est un jugement qu'il porte, parce que à son enfant, Dieu parle toujours, et dans le dialogue de la prière et dans la méditation de l'Écriture, nous écoutons toujours et nous entendons toujours Dieu nous parler.
Non, ce que j'entendais, tout simplement la représentation, parce qu'il a vu une silhouette, par exemple. Il a vu le dos de Dieu, il a vu sa silhouette.
Ah, c'est en ce sens. Non. Ça, je pense pas qu'il faut le prendre dans un sens aussi littéral que ça. Je veux dire, il a éprouvé la présence de Dieu, alors il voyait la face de Dieu, et il éprouvait l'éloignement de Dieu, il voyait le dos de Dieu, vous voyez. Je crois pas qu'il faille pousser au sens où il aurait vu une silhouette, je pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Alors attendez, lui vient en troisième, et puis vous en quatrième.
Moi, je suis simplement content de la précision que vous avez amenée aussi en disant que quand on se fait une image dans notre tête, une idée de ce que Dieu est, c'est de l'idolâtrie si ce n'est pas une révélation complète de ce que Dieu est dans la Bible, et que vous avez amené la précision que les nouveaux convertis ont à préciser leur image et à former leur image.
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à la former, mais ils ont à la laisser se former en eux. Oui. Parce que c'est justement, il ne faut pas que nous formions une image. Il faut que Dieu forme en nous une image. Vous voyez?
Non, mais ça, nous sommes d'accord. C'est de dire que le nouveau, quand il vient, il y en a qui vont venir avec une image plus précise du jugement, de la colère et de cet aspect-là de Dieu. D'autres vont venir avec un aspect plus grand du pardon et de l'amour. Au début, quand on se convertit, on n'entend pas vraiment.
Et oui. Et c'est-à-dire on a une pensée quelquefois qui peut être un peu déséquilibrée, hein. Mais c'est pas parce qu'on y met de la mauvaise volonté, c'est simplement parce que on a été plus frappé à travers l'expérience de la conversion quelquefois par tel aspect de Dieu, hein, qu'un autre. Mais petit à petit, Dieu, par son Saint-Esprit, rectifie en nous l'image. Alors vous, une dernière question.
Moi, une question, une précision en rapport avec ce que Jacques a présenté. Il y a une difficulté dans sa question, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre.
Oui.
Alors se présenter devant la face de Dieu, c'est quelque chose qui se fait pas. Complètement. Si on voit la gloire de Dieu, si on voit la face de Dieu, on meurt. Et ici, dans le texte qu'il nous a présenté, Dieu a montré son dos à Moïse parce que s'il avait vu sa face, il serait mort.
Oui, mais alors là, n'est-ce pas, il faut voir qu'il y a une variété quand même de sens, toujours. Ouais, ben, je crois que là, ce que vous venez de dire est tout à fait juste, mais il y a aussi d'autres textes dans lesquels, par exemple, lorsque Moïse voit Dieu face à face et lui parler comme un ami à un ami, c'est aussi un texte. Donc, vous voyez, ce qu'il faut, c'est savoir que selon le contexte, ça peut avoir une accentuation positive ou au contraire une accentuation négative. Ça c'est sûr. Mais alors, ce qui est frappant aussi, c'est les théophanies. J'aurais dû en parler, les théophanies dans l'Ancien Testament. Par exemple, vous savez que Abraham, quand il reçoit les trois mystérieux visiteurs, en réalité, c'est le Seigneur qu'il reçoit. Parce que Dieu s'est présenté à Abraham sous la forme de ces trois. Donc, il y a eu dans l'Ancien Testament, pour aider, en quelque sorte, au départ, les choses, il y a eu Dieu est apparu. Ben, il y a eu les apparitions de Dieu, donc des théophanies de Dieu. Il y a eu la théophanie de Dieu au Sinaï avec Moïse, mais avec Abraham aussi, il y a eu une théophanie de Dieu. Il y a eu d'autres théophanies avec les prophètes. Lorsque, par exemple, Élie est dans le temple, il ne voit pas Dieu lui-même, mais il voit que les pans de la robe de Dieu remplissent le temple. Or, c'est une manière... vous voyez, je fais une distinction, si vous voulez, entre vision et songe. Je veux dire que par là... Dieu a parlé quelquefois dans des songes, ça c'est lorsque celui qui avait le songe dormait. Tandis qu'une vision, c'est un songe quand on est éveillé. Vous voyez ? Or, il y a eu des visions comme ça, où Dieu est apparu. De même, Jacob a réellement vu cette échelle, il l'a vu en songe. Mais n'empêche qu'il y a eu une réelle rencontre avec Dieu et une réelle théophanie de Dieu ce jour-là. Avec cette échelle sur laquelle montaient et descendaient les anges. Hein. Mais tout ça, pour moi, c'est très beau, parce que ça nous montre, n'est-ce pas, une sorte, il y a une beauté mystérieuse dans l'Écriture sainte. Il y a des choses qu'il ne faut pas trop essayer de rationaliser. Il faut laisser une aura de mystère autour de certains textes. Moi, je crois, par exemple, que la rencontre d'Abraham avec ses trois visiteurs, c'est quelque chose de fantastique. Parce que si on lit attentivement le texte, on voit que Dieu parle du Seigneur comme si c'était un Seigneur qui le visitait. Et cependant, ils sont trois. Il y a une sorte de préfiguration de la Trinité là-dedans. C'est très mystérieux. Il faut laisser quand même un peu... Il y a du mystère. Quelquefois, notre... comme occidentaux, un peu marqués par le rationalisme, nous voulons un peu trop rationaliser tout ça. Il faut laisser un peu de mouvement là-dedans, un peu de jeu, n'est-ce pas? Il y a le jeu du mystère, il faut l'accepter. Et je crois que ça nous aide aussi pour notre contemplation et notre adoration. Voilà, nous arrêtons là.